franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le chômage en France depuis le 19e.
Des charretées, des caravanes de sans-logis affamés. 20 000, 50 000, 100 000, 200 000. Ils déferlaient pareil à des fourmis perpétuellement affairées. En quête de travail, de quelque chose à faire, de quelque chose à soulever, à pousser, à hisser, à traîner, à piocher, à couper, n'importe quoi.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent ?
Ce qu'ils veulent, du travail. Ils appellent ça le droit au travail.
On peut faire remonter l'épreuve du chômage au déluge, c'est entendu, mais nos auditeurs vont peut-être sursauter. On peut aussi soutenir que le chômage, comme le droit au travail, est de construction récente, au motif que c'est seulement à partir d'un certain moment que certaines situations ont été comptées pour du chômage et d'autres non. Et ce moment se situe à la fin du 19e siècle. Le chômage a alors été mieux calculé, enfin indemnisé, inventé, en somme. Et avec lui, les spécialistes qui faisaient profession de le combattre et les institutions destinées à distribuer des revenus de protection. En 2011, les uns et les autres, et les politiques qui organisent les sommets de crise, sont débordés. Travail partiel, activité d'insertion, mission de courte durée, où le chômage n'est-il pas ? À tel point que beaucoup pensent, sans le dire, il a été utile de construire le chômage il y a un siècle, mais peut-être serait-il avantageux de le déconstruire aujourd'hui. Yves Obermann, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Perrin une histoire du chômage de l'Antiquité à nos jours. On va simplement s'intéresser à la deuxième séquence, la plus moderne de votre ouvrage. Un temps, votre famille croit encore que vous êtes pianiste. Dans les milieux que vous fréquentez, on ne dit pas chômeur, on dit qu'on est en transition de carrière. Un jour, vous avez été chômeur ?
Oui, j'ai été chômeur. Assez peu de temps, mais j'ai été chômeur. J'ai goûté les joies, si je puis dire, entre guillemets, de l'inutilité sociale. Et je dois dire que c'est une situation très difficile, même pour ceux qui savent qu'on va retrouver du travail un jour. Alors imaginez, pour ceux qui imaginent qu'ils n'en retrouveront plus, c'est vraiment une situation dramatique.
Chômeur, vous avez utilisé le mot comme un nom, mais on va parler de la période des prémices, la première moitié du 19e siècle, fin 18e, début 19e siècle. C'est surtout un adjectif, le dimanche chômé, même le saint lundi, parfois pour ceux qui travaillent vite. Ou bien c'est un verbe, je chôme le dimanche et le saint lundi.
Tout à fait, oui, au début, si vous voulez, le chômage, c'était, on chômait pour honorer les saints. Et très vite, on va dire peut-être au XVIIe siècle, les premiers dictionnaires comportent les deux définitions. Le chômage est à la fois un moment où on honore les saints et un moment où on n'a plus de travail. Donc, dictionnaires comme le Furetière indiquent bien clairement qu'on peut être au chômage parce qu'on n'a pas de travail. Et c'est très récent.
On va ici essentiellement parler de la France, mais la réflexion sur le chômage en France est intimement liée avec ce qui se passe en Allemagne et surtout en Angleterre. Vous fixez à 1795 un acte fondateur qui vite a été déchiré, mais qui ne peut pas être aboli. 1795.
Oui, c'est un acte, je le fixe, je ne suis pas le seul à le fixer. Karl Polanyi, dans son livre « La grande transformation », en parle beaucoup. En fait, il s'agit du premier RMI de l'histoire que les Anglais très libéraux ont institué tout simplement pour continuer cette surveillance sociale qu'ils avaient commencé il y a très longtemps. Ils ont préféré laisser les uns et les autres en place, quitte alors octroyer une indemnité par tête, afin de surveiller mieux leur activité, même si le marché du travail se libéralisait.
Et un revenu minimal vital, surveillé et indexé sur le pain.
Absolument, c'est tout à fait ça. C'était trois fois le prix de la miche de pain pour chaque pauvre. Tout ça pour éviter qu'il aille se balader ailleurs et qu'on perde sa trace.
Oui, mais rassurez-vous, les mieux-disants libéraux ont expliqué que ce système générait de la bureaucratie parasitaire.
Oui, tout à fait, oui. Ça générait de la bureaucratie, mais ça permettait de surveiller beaucoup plus efficacement.
Mais aussi, ça encourageait la paresse et le vice qui poussaient comme la mauvaise herbe. Donc 1834, ça c'est une date importante aussi, on résilie.
Tout à fait.
L'acte de 1795.
On supprime cet acte. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que on avait coutume de dire que les Anglais avaient inventé deux choses, les fabriques et les pauvres.
Alors c'est toujours à cette même période, un tout petit peu plus tard, voici un extrait d'un téléfilm tiré de l'ouvrage posthume de Flaubert, qu'en France maintenant, revenons à la France, nos amis Bouvard et Pécuchet réfléchissent très fortement à la question, surtout que des gens viennent leur demander la charité.
Donnez-moi un verre de vin. Un verre de vin. J'ai fait 7 ans de guerre. Je relève de l'hôpital. Je suis sans travail. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'assassine?
C'est Gorju, un ancien menuisier.
Non, Gorju, éloignez-vous.
Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Vous avez peur de moi?
C'est scandaleux.
On ne demande pas l'aumône.
Oui, le mot chômeur s'invente difficilement, parce qu'il faut le distinguer du vagabond, de l'indigent. Et il faut se poser la question avant de le définir. L'aumône doit-elle être utile?
En tout cas, elle est utile de deux façons. La première façon, effectivement, ça évite celui qui fait l'aumône de mourir de faim. Mais ça permet aussi à celui qui donne la charité de réaliser son salut sur terre. Et c'est pour ça que les protestants ont très vite dit « Non, 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 on ne réalise pas son salut sur terre par la charité, mais en ayant une vocation, un métier. » Et donc, il faut donner aux pauvres un métier. Il faut se réaliser par son métier et non pas en donnant la charité.
Et si vous ne travaillez pas, c'est qu'au fond, vous le voulez bien.
Oui, tout à fait. Il y a une grande partie des gens qui pensent que, effectivement, si on ne travaille pas, on le veut bien. Mais quand on a vu les chômeurs involontaires, ceux-là, ne pas travailler, je peux vous assurer qu'ils ne le veulent pas tous.
Alors, la notion de chômage involontaire, elle va apparaître peu à peu. Laissons tomber la période de l'aube dans laquelle nous étions encore, Yves Zobermann, avec la deuxième partie du 19e siècle. Il faut dire que en France, le travail s'est contractualisé. Je sais pas, on n'aimait pas qu'un mineur à Carmaux, la bonne saison soit dans son champ et puis la mauvaise saison soit sous le carcan.
Tout à fait. On a essayé de rationaliser le travail et surtout de rationaliser le temps de travail. Il fallait qu'on définisse les périodes où on travaille. Donc c'est à partir de la fin du 19e siècle où ça s'est déroulé.
Oui, mais le travail est irrégulier à la fin du 19e siècle. Parce que pendant des années, la croissance française, on a complètement oublié ça, se traîne autour de 1%. Et pendant la répression, l'ouvrage manque.
Oh, je m'appelle Étienne Lantier, je suis machineur. Pas du travail par ici?
Du travail pour un machineur? Il s'en est présenté encore deux hier, il n'y a rien.
Et les fabriques par ici?
Bon. C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Ils renvoient du monde à la sucrerie Routon. Et à la verrerie Garbois, la grève menace. Ils parlent de réduire les salaires.
Je sais, j'en viens.
Chez nous, ça va, ça va. Ça va encore pour le moment. On n'a pas de la viande tous les jours, mais ça va. Vous êtes peut-être de la Belgique, non?
Non, je suis du Midi.
Moi, je suis Monceau. On m'appelle Bonnemort. Ils m'ont retiré de là-dedans 3 fois en morceaux. Alors, comme ils ont vu que je voulais pas mourir, ils m'ont appelé Bonnemort. Bonnemort pour rire, quoi.
Le film un peu réaliste socialiste de Claude Berry, j'entends là tout, Germinal, l'œuvre de Zola, date de la période qui nous intéresse, 1885.
Oui, c'est une période marquante puisque c'est une période de crise. Et c'est une période doublement de crise là aussi puisque c'est la crise industrielle, c'est la crise aussi dans la paysannerie. Et vous savez, comme la France était encore assez paysanne, les consommateurs étaient paysans. Comme il y avait une crise, ils consommaient moins. Donc l'industrie, par contre-coup, avait une baisse de production. Et comme le travail était de plus en plus rationalisé, bien entendu, on s'apercevait de plus en plus qu'il y avait des chômeurs. Avant cette période où le travail était moins rationnel, on s'apercevait moins que le chômage existait, mais il était quand même très présent.
Mais alors le chômeur, on s'aperçoit que c'est un authentique travailleur que la crise industrielle prive de labeur.
Oui, on s'en aperçoit d'autant plus qu'on a encore une fois rationalisé sa présence au travail. Donc là, c'est très visible, il a moins de travail, il est moins présent. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas présent? Eh bien, on voit les romans populaires qui expliquent bien qu'il va qu'à des occupations pas très morales. C'est-à-dire qu'il va dans les estaminets pour boire et au lieu de travailler. Parce que le travail, c'est moral.
Quittons le domaine instable de la morale et revenons au domaine du chiffre sur lequel vous voulez nous attirer, Yves Obermann. Le chômage se calcule. Le chômage est une invention, d'une certaine manière, je mets le mot avec des guillemets, de la statistique.
Absolument. Statistique, science toute récente, puisqu'elle a été inventée au milieu du 19e siècle par un dénommé Quetelet. C'est très intéressant de voir à quoi sert la statistique. Elle sert à dénombrer, mais aussi à classer, et on le voit encore aujourd'hui, les bons chômeurs, les bons chômeurs et les mauvais chômeurs. C'est-à-dire qu'il y a des bons chômeurs, c'est ceux qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas. Et puis, il y a des chômeurs moins bons qui ne veulent absolument pas travailler. Plusieurs enquêtes à la fin du 19e siècle ont été faites en Angleterre, en Allemagne, en France. Et les statistiques servent à tout ça.
En France, le recensement dès 1896 introduit la notion de chômeur.
Oui, alors... En France, c'est 1896, mais je dois vous dire qu'aux États-Unis, dans le Massachusetts, c'est 1876. Nous sommes sans doute assez précurseurs, mais nous ne sommes pas les premiers.
Et en Grande-Bretagne, ce sera beaucoup plus tard, parce que les Anglais renâclent. Alors les spécialistes, statisticiens, juristes, hommes politiques qui se préoccupent de la question en se disant « je vais me présenter comme un réformateur, ça va me faire une profession, réformateur du chômage », se réunissent. L'événement est important, peu connu. 1910, conférence internationale du chômage. Christian Topalov l'a raconté en long, en large et en travers. Et puis, c'est un moment important de votre livre aussi.
Oui, c'est un moment important parce que ça mondialise, puisqu'on parle de mondialisation, ça mondialise ce phénomène, c'est-à-dire que tous ces intellectuels, tous ces réformateurs, comme vous le dites, sont préoccupés par la montée globale d'un phénomène nouveau et surtout d'un phénomène que l'on peut appréhender de façon plus rationnelle. Et donc, comme nous sommes à un moment charnière dans l'histoire du monde où on a une forme d'internationalisation des problèmes, le chômage y participe aussi. C'est-à-dire qu'on internationalise tout, y compris le chômage. On internationalise la monnaie, on internationalise tous les phénomènes. Donc le chômage, eh bien, lui a droit aussi à une conférence internationale.
Donc il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a Beveridge, qui sera plus tard l'inventeur à bien des égards de l'État-providence. Ce ne sont pas des philanthropes qui appartiendraient à des sociétés de charité. Ce ne sont pas des syndicalistes, ce ne sont pas des socialistes.
Absolument, ce sont un certain nombre de nouvelles professions et surtout ce sont un certain nombre d'hommes politiques qui commencent à penser que l'intervention de l'État doit être aussi dans ce domaine prééminente parce qu'il y a un risque social à voir ce chômage se développer.
Léon Bourgeois préside les débats qui inventera le solidarisme. À ce moment, la politique d'assurance commence à se mettre en place, mais ce n'est pas l'État qui assure l'assistance et l'indemnisation.
Non, il y a plusieurs systèmes. Le premier système a été inventé, si je puis dire, à Gand, en Belgique. C'est ce qu'on appelle le système de Gand. C'est un système syndical où seuls les ouvriers syndiqués ont le droit à une indemnité. Et puis, on élargit et on diversifie. En Angleterre, on a un système mixte. En France, on a un système assez mixte aussi. On est quand même au balbutiement en France. On a toujours été un peu rétif. C'est surtout les communes en France qui gèrent cette assistance plus que cette assurance. Il ne faut pas oublier, fait très important, que déjà Napoléon III s'est beaucoup penché sur ces problèmes de mutuelle, de mutualisation. Il pensait lui aussi qu'il fallait que les ouvriers se réunissent autour d'un petit pécule pour qu'ils s'assurent contre les mauvais jours. S'assurer, c'est vraiment la modernité face à l'assistance.
La guerre de 14-18, revanche contre la défaite de Napoléon III, intervient, qui suspend la construction de l'édifice du chômage. On a noté que le chômage était maintenant reconnu comme involontaire. Et puis tout va repartir au lendemain de la guerre. La réflexion, les rencontres, ici adapté du roman d'Aragon, le film d'Arnaud Sélignac, Aurélien. Riquet et Roger sont dans une piscine, d'abord en petite tenue. Ils ignorent donc qui ils sont socialement, puis après ils se retrouvent au vestiaire.
Salut, moi c'est Riquet, je suis ajusteur-monteur. Et toi?
Roger.
Roger, t'es du quartier?
Déal.
Déal. Eh ben essaie donc de rattraper Riquet, tiens.
Oh merde, moi qui voulais vous offrir un verre.
Hubert-Riquet, tu ne me tutoies plus parce qu'on s'est fringué ?
Je savais pas que monsieur est un capitaliste.
Capitaliste ? Pas vraiment.
Ah bon ? Et à quoi vous travaillez ?
Je vis de mes rentes.
Et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je ne fais rien.
Rien ?
Non.
Mais alors rien de toute la journée ? Oh là là, ah, je pourrais pas, moi. J'ai déjà été chômeur. Oh, faut de la santé pour être chômeur toute sa vie. Hein. Bon, bah c'est pas tout ça. Ma femme et mes gosses m'attendent. Faut que j'y aille. Allez, salut.
Oui, c'est un extrait tout à fait significatif de ce qu'est l'oisiveté des pauvres, bien sûr, par rapport à l'oisiveté des riches. L'oisiveté des pauvres est totalement involontaire. Et en fait, les pauvres ont comme principe, comme seule ressource, la vente de leur force de travail. Et ça, c'est un point très important. Marx en a beaucoup parlé. Et c'est comme ça qu'a commencé d'ailleurs l'accumulation primitive du capital.
Oui, mais là, dans les années 20, Riquet, il trouve du travail. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés au combat. Et pourtant, il y a des progrès de productivité. Mais les années folles, où nous nous situons avec le livre d'Aurélien, sont des années laborieuses.
Absolument. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'en fait, à la fin de la guerre, il y a un chômage important en France, tout au début, 500 000 chômeurs. Et puis, en 1929, juste avant la crise, il y a recensé 1000 chômeurs, chiffre quand même peu significatif, mais qui indique qu'il y a très peu de chômage en France. On a préféré, et on ne pouvait pas faire autrement, puisque la main-d'œuvre masculine manquait. Donc les hommes ont travaillé pendant toute cette période. Et la société, notamment en France et aux États-Unis, c'était ce cas. En revanche, en Allemagne et en Angleterre, on avait le cas inverse.
On va venir à l'Allemagne et l'Angleterre, mais quand même, si la situation de la France est apparemment si favorable, au point qu'on doit recourir beaucoup à l'immigration, c'est qu'on a peut-être aussi laissé courir l'inflation. On s'aperçoit, dans les années 20, on réfléchit là-dessus.
Absolument.
Que les questions de chômage sont liées aux questions monétaires.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est dû aussi en grande part, certains intellectuels et des économistes nouveaux pour l'époque, comme Keynes, nous font découvrir que finalement l'économie peut être globale et qu'on peut lier les prix avec le salaire et avec le chômage. Et donc à ce moment-là, naît dans l'esprit de nouveaux politiques l'idée qu'on va pouvoir intervenir aussi sur tous ces éléments-là.
Vous parlez de l'Allemagne, de l'Angleterre. La crise allemande de 23 est bien connue, la crise anglaise moins. Il y a un endroit pas assez connu non plus, le Bureau international du travail, issu du traité de Versailles, qui est créé à Genève et qui réfléchit à toutes ces questions et s'interroge, est-ce que le chômage ne pourrait pas être structurel ? On a parlé de chômage involontaire à la fin du 19e siècle. Voilà maintenant qu'après la Première Guerre, on se dit, mais il n'y aurait pas un chômage structurel ?
Oui, c'est vrai que quand vous faites allusion à la naissance de l'OIT, c'est-à-dire l'Organisation internationale du travail, et du BIT, qui est son secrétariat général, eh bien, cette naissance est dans toute cette mouvance de mouvements pacifiques comme la SDN, qui a pour vocation première d'essayer de penser la société d'une façon nouvelle. Et c'est vrai que le chômage structurel n'est pas quand même une idée complètement nouvelle, puisque des penseurs plutôt ouvriers, d'ailleurs, comme Marx, ont dit que le chômage faisait partie du système, qui était structurellement dans le système. Eh bien, lorsque le BIT et l'OIT laissent planer justement cette idée que, plus que planer d'ailleurs, dit que le chômage peut être structurel et peut être utile à certains moments, mais surtout peut être nuisible pour la cohésion sociale, parce qu'avec le chômage structurel apparaît un nouveau terme qui pourrait être aujourd'hui dénommé comme la cohésion sociale. Ce terme-là, c'est la naissance post-Première Guerre mondiale, où on essaye d'avoir, après la guerre, on essaye d'avoir une vraie cohésion de la société.
Fait social, fait international, le chômage devient de plus en plus un fait politique. Vous parlez de cohésion sociale. Dans les années 30, en France, où la situation va se retourner, il s'agit plutôt de dissonance.
Accourez tous au jeu de massacre, la douzaine de Valebourg, Vinsou. Allez, entrez, arrivez tous, allez, arrivez.
Arrêtez-vous,
les pauvres gens,
les petits, les ratés, les sans fin.
Arrêtez-vous,
les sans talent,
les sans lit, les sans rien.
Pour vous venger de vos blessures, pour vous venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs.
Hop, la boum, dans monsieur le maire, hop, la boum, dans l'aristo, hop, la boum, dans le militaire, hop, la boum, dans le bourreau.
Hop, la boum, dans monsieur le maire, hop, la boum, dans l'aristo, hop, la boum, dans le militaire, hop, la boum, dans le bourreau.
C'est le massacre des fantins innocents. Avisez bien leur pauvre gueule, puisque vous êtes tous trop veules pour taper sur les puissants.
Gilles et Julien, 1934, année cruciale. La crise a fini par frapper à la porte de la France. Les assurances en France quand le chômage réapparaît pour atteindre bientôt 10% de la population active, un taux qu'on connaît maintenant, les assurances deviennent un peu plus étatiques ?
Non, on peut pas, vraiment le dire. Vous savez que l'assurance sociale en France a été, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, a été vraiment une structure très communale. Et il y a des pays, d'autres pays ont pensé des systèmes d'assurance sociale nationale comme l'Allemagne. Mais la France, elle est restée assez, assez locale. Je vous rappelle quand même que nous avons la création en 58 seulement des grands systèmes d'assurance.
Mais alors, dans les années 30, caisses syndicales subventionnées et aides des collectivités locales avec quand même un fonds national dont l'idée était venue pendant la Première Guerre mondiale et qui vient conforter tout ça.
Absolument, absolument.
Alors que quand la crise est là, sont mis en branle non seulement les mécanismes d'allocation, mais aussi, c'est une idée qui renaît, traditionnellement, des grands travaux 1934, l'année cruciale, archives, radio, avec en bonus le président de la République soi-même.
Bordeaux lutte contre le chômage et s'embellit. Sur la rive gauche de la Garonne, voici de nouveaux abattoirs et un marché aux bestiaux, aménagés chacun d'après des plans et des formules techniques neuves. On dit même que ces bâtiments sont les plus modernes d'Europe. Une nouvelle piscine municipale doit bénéficier de tous les progrès faits ces dernières années. Ces entreprises, les premières de tout un programme, permettent de remédier à la crise du chômage.
L'œuvre qui commence est le résultat de longs efforts. Elle a pour but de doter notre pays de grands travaux d'utilité générale, de donner à ceux qui chôment depuis trop longtemps un travail dont ils ont besoin, et pour vivre, et pour remonter leur morale. Je souhaite de marcher et de vivre dans une complète et parfaite entente. Les uns et les autres s'en trouveront bien, et le pays s'en trouvera encore mieux.
Le président de la République, Gaston Doumergue, le sage de Tournefeuille, Haute-Garonne.
Oui, c'est tout à fait extraordinaire, mais très significatif depuis très longtemps. Et ça, dans mon livre, j'en parle. Je dirais que c'est la continuité du livre. C'est tous
je
ces
peux
grands
le citer
travaux.
Peut-être une histoire du chômage depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On parle juste de la période moderne chez nous, chez Perrin.
Oui. Alors donc ça, c'est une continuité très forte. Les grands travaux ont été en France, mais ailleurs aussi, une idée qui est revenue périodiquement. On allait résoudre soit le chômage faute de travail, soit le chômage faute d'emploi, le chômage contemporain, en effectuant des grands travaux. Il y a eu les ateliers de secours, les ateliers de charité, les ateliers nationaux, qui furent quand même en 1948 un des éléments du début du droit au travail, puisque vous savez qu'en 1848, eh bien, on avait commencé à dire qu'il fallait, la République devait donner un travail à tous.
Et là, les grands piscines, voilà. Les abattoirs à Bordeaux.
Tout à fait, nous sommes exactement dans la même tonalité, c'est-à-dire qu'on fait des grands travaux pour permettre aux chômeurs d'avoir un travail, et c'est l'État qui organise. Alors bien entendu, on connaît les effets pervers, beaucoup de penseurs, beaucoup de théoriciens, mais aussi beaucoup d'acteurs, depuis très longtemps, ont dénoncé ces effets de l'introduction de l'État comme une entité qui pouvait donner du travail.
Le président de Tournefeuille est un sage. Il utilise un mot auquel vous n'avez pas fait attention. Il faut remonter le moral. Parce qu'on s'aperçoit dans les années 30, des enquêtes pionnières, par exemple en Autriche, l'ont montré que le chômage, non seulement n'est pas involontaire, non seulement il peut être structurel, mais il est disqualifiant, stérilisant.
Absolument. C'est un chômage qui amène à une forme de désaffiliation sociale, comme le dit un des sociologues français très connu sur ce sujet, qui est Robert Castel.
Oui, mais ça, il dit ça beaucoup plus tard. Mais,
oui, mais
les enquêtes des années 30, absolument, par exemple en Autriche, dans un village qui s'appelle Marienthal,
absolument,
parlent des conséquences psychologiques.
Absolument. Mais je dois dire, pour parler de cette enquête, le début de cette enquête est assez significatif. Les sociologues qui ont voulu faire cette enquête ont voulu faire une enquête sur le temps libre des ouvriers. C'était le début du temps libre après le travail. Et donc, ils s'en ouvrent auprès d'un grand...
leader socialiste autrichien. Oui.
Absolument. Et le leader socialiste leur dit, mais il n'est pas question de faire une enquête alors que le chômage commence. Il n'est pas question de faire une enquête sur l'oisiveté voulue, les loisirs, alors que ces gens-là sont au chômage. Donc, ils vont à Marienthal pour faire une enquête sur le chômage.
Et c'est une petite ville, l'usine a fermé.
C'est une vie, on appelle
ça... désorganisée, érodée peu à peu.
Absolument. C'est une ville qui est bâtie autour d'une usine. L'usine cesse et son activité, et les gens sont au chômage. Mais comme nous sommes en Autriche social-démocrate, ils sont indemnisés. Donc ils ne sont pas sans revenus, mais ils sont sans occupation. Et les sociologues s'aperçoivent que, certes, le revenu est modeste, mais il permet de vivre, mais tout juste. Mais en tout cas, il met tous ces gens dans un état psychologique d'infériorité.
De privation d'espoir.
Absolument.
Le préfacier de l'édition traduction très tardive en France de Marienthal, c'est Pierre Bourdieu, et il dit que les chômeurs dans les années 30 ressemblent davantage aux personnages de Beckett qu'aux prolétaires, selon Marx, que vous citez tout à l'heure. À la fin de cette période, la radio jouait son rôle.
Hâtons-nous maintenant de donner connaissance aux chômeurs à l'écoute des offres d'emploi qui nous sont parvenues. Et voici la première offre de la journée, l'offre 7492. Un restaurant du 6e arrondissement recherche de toute urgence un comptable économe qui serait nourri. Je répète, sous l'offre 7492, un restaurant du 6e recherche de toute urgence un comptable économe nourri. Voici l'offre 7493 maintenant. On recherche sous ce numéro des jeunes gens. Technicien du cinéma, célibataire de préférence, numéro de l'offre 7493. Offre 7494, on recherche des jeunes gens de 18 ans environ, présentant bien, comme contrôleur aboyeur pour cinéma. Je répète, offre 7494.
La contribution de Radio France en 2011 est d'un autre ordre. Une grande journée sur le travail, le 23, puisque vous aimez citer les titres de livres. Une enquête menée auprès des auditeurs de Radio France, publiée aux éditions Les Arènes. Quel travail voulons-nous ? Aujourd'hui, n'y a-t-il pas une déconstruction de ce chômage qu'on a construit si lentement, étant donné que la notion est marquée par une indécision grandissante ?
Oui, d'une certaine façon, je voudrais quand même terminer cette émission par une note assez optimiste. En effet, le chômage contemporain, le chômage que nous connaissons, c'est-à-dire le chômage faute d'emploi, est apparu à la fin du 19e siècle. C'est un phénomène historique et bien entendu, comme tous les phénomènes historiques, il va disparaître. C'est-à-dire que le chômage faute d'emploi va disparaître. Évidemment, le vrai problème, ça va être de se poser la question de l'utilité sociale de l'homme aujourd'hui et comment les hommes vont gagner leur vie dans nos sociétés et comment va-t-on s'organiser. Je pense que les prochaines élections seront le lieu privilégié de ce débat, du moins je l'espère.
Oui, mais tout de même, vous effacez un peu vite la notion dont vous étudiez si lentement dans votre ouvrage. La fabrication complexe, c'est un petit peu facile. Sous prétexte qu'il y a du travail partiel, enfin on dit chômage partiel, je ne sais pas pourquoi, des tâches d'insertion, sous prétexte qu'on n'arrive plus à indemniser, d'effacer.
On n'efface aucune notion. Je dis simplement que le chômage faute d'emploi va disparaître. Il va rester le chômage faute de travail, faute d'occupation, faute de besogne, faute de loisirs, faute de tout sauf d'emploi, puisque l'emploi, lui, va disparaître. Mais en revanche, il va rester le chômage et ça sera à nous de le traiter.
Mais on dit que l'emploi va disparaître au motif qu'on n'arrive plus à indemniser les chômeurs. La part des chômeurs indemnisés depuis les années 1980, elle est généralement inférieure à 50%. Votre proclamation d'optimisme n'est-elle pas le résultat d'une impuissance ?
Non, pas du tout. Et c'est du réalisme, c'est-à-dire que les emplois vont disparaître parce que la société a changé. En revanche, il va falloir continuer à se poser la question comment nous travaillons, comment nous vivons ensemble et comment nous gagnons notre vie.
Alors ça, c'est la réflexion finale d'un homme qui a été hors poste en transition de carrière, parce que dans certains secteurs, ceux des gens issus des grandes écoles, par exemple, on ne peut pas parler de chômage. Vincent Godard, Martin Guénard à la technique, Marie Casanova à la réalisation et pour la préparation, Franck Olivard, Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier, Martin Pennet.